BFM Business et Tech & Co présentent Tech & Co, la quotidienne. François Sorel.
Bonsoir à toutes et à tous, il est 20h pile, nous sommes le mardi 11 mars 2025, je suis très heureux de vous retrouver, bienvenue dans Tech & Co sur BFM Business, votre rendez-vous tech, vous le savez quotidien, on est là du lundi au jeudi, 90 minutes de tech, 20h, 21h30, avec au sommaire ce soir, dans Tech & Co, on va évidemment débriefer l'actu et revenir sur, on va dire, les secousses d'Elon Musk en ce moment, Tesla qui s'effondre et puis X qui se fait cyberattaquer. On découvrira aussi une nouvelle IA. Vous connaissiez DeepSeek, il y a encore mieux, c'est Manus, une IA chinoise totalement bluffante. On en parlera tout à l'heure. Et puis, nous irons du côté du Texas à Austin, vous faire vivre le SXSW qui bat son plein actuellement. Et c'est Arnaud Auger qui nous racontera l'ambiance de ce festival qui mêle à la fois la musique, le cinéma, mais aussi forcément la tech. Voilà quelques-uns des sujets qu'on va évoquer ensemble. Installez-vous, c'est parti. C'est Tech & Co, la quotidienne.
Tech & Co, la quotidienne, le débrief de la tech.
Un bon débrief de l'actu tech ce soir avec nos experts qui sont là. Et je suis très heureux de retrouver. Nous avons du beau monde dans Tech & Co, la quotidienne ce soir. Michel Lévy-Provençal est avec nous. Salut Michel.
Bonsoir François.
Qui est prospectiviste, fondateur de TEDx Paris et de l'agence Brightness. À tes côtés, c'est Philippe Devost. Salut Philippe.
Bonsoir François.
Philippe Devost, fondateur de Phileos, ancien directeur général de l'EPITA et l'un des papas de...
Wanadoo.
Et tu connais très bien, je crois, Philippe, Thomas Serval, qui est avec nous ce soir.
Voilà, depuis trop longtemps.
Depuis trop longtemps.
Trop longtemps.
Il m'a expliqué ce que c'était qu'une start-up.
Les baroudeurs de la tech. Salut Thomas, bonsoir.
Bonsoir.
Alors Thomas Serval, vous le connaissez peut-être si vous regardez quelques-unes de nos émissions. Il est le PDG de Barracoda, qui est une société qui est spécialisée dans la santé connectée, à la fois en B2B, mais aussi en B2C. Mais tu as eu plusieurs vies dans la tech. Tu as créé une appli qui s'appelait Radio Live, qui permettait... voilà, c'était le tout début des radios en streaming dans les années 2000. Tu as été chez Microsoft, tu as été chez Google. Et évidemment, tu as une culture tech qui fait que tu es le bienvenu ici pour commenter toutes ces actus. D'autant que les amis, on va commencer par Tesla. Petite sortie de route quand même pour Tesla hier, qui s'est totalement effondrée en bourse. L'entreprise dirigée par un certain Elon Musk a connu lundi sa pire séance depuis 2020, vous vous rendez compte ? En cause, la conjoncture actuelle, des ventes en berne, mais aussi son soutien sans faille à Donald Trump qui commence à lui faire du tort. On écoute les explications de Nicolas Dose et on revient juste après.
La chute des ventes s'est juste divisée par deux en Chine depuis le début de l'année. Et c'est moins 87% sur un an. Et dans le même temps, BYD fait plus 90% sur un an avec 614 679 unités vendues en février. Pareil en Europe, les ventes sont divisées par deux. Donc c'est la principale raison. Deuxièmement, il y a une gamme qui est plutôt vieillissante. Et puis ce sont des modèles qui sont chers. Alors il y a des nouveaux modèles qui sont annoncés, notamment plus accessibles. Sauf qu'ils sont annoncés, mais ils ne sont toujours pas là. Troisièmement, il est évident que dans la chute des ventes de Tesla, y a un phénomène de boycott de la marque qui est accentué par l'emblématique directeur général Elon Musk, l'homme à la tronçonneuse de Washington, et le fameux Doge, son département de l'efficacité gouvernementale. Il est évident qu'il y a un lien entre la personnalité qui est devenue Elon Musk en politique et une forme de rejet de la marque, même si ce n'est pas quantifiable. Baisse des ventes, on ne peut pas dire que tant de personnes y ont renoncé pour telle raison. Et puis, troisième chose, il y a aussi un recul marqué de l'ensemble de la tech aux États-Unis en bourse. Il ne faut quand même pas le nier. On regarde la séance d'hier, on a eu des baisses qui allaient entre 5 et 3,5% sur tous les géants de la tech. Le Nasdaq a perdu 4% hier soir. Alors, 15%, c'est quand même une très forte baisse. Et vous le disiez, en trois mois, la valeur boursière de Tesla a été divisée par deux. Ça veut dire que 800 milliards d'euros de valeur boursière sont partis en fumée en seulement un trimestre. Et Elon Musk a perdu un tiers de sa fortune. Il est tombé à 320 milliards de dollars. Il reste devant Jeff Bezos, la première fortune du monde, malgré tout.
Bon, ça va. Il a de quoi se rassurer. C'est étonnant, cette histoire, quand même. Voilà, en quelques jours, l'action Tesla qui s'effondre. Évidemment, ça a un impact dans un contexte un peu particulier. Depuis que Elon Musk se rapproche de Donald Trump, évidemment, il y a des propriétaires de Tesla qui ne sont pas contents de cet état de fait, qui ne sont plus en phase, en fait, avec la personnalité qui était Elon Musk au départ. Tu veux peut-être commencer, Thomas, là-dessus ?
Oui, alors, il faut savoir que je suis un grand fan de Tesla, que j'ai vu arriver vraiment en France avec un produit qui était un Roadster, les gens oublient, et qui offrait un service client exceptionnel. C'est-à-dire, quelque part, le truc tombait en panne très fréquemment, mais il y avait le moins de problèmes, il y avait quelqu'un qui répondait chez Tesla, on allait régler votre problème, etc.
Ça, c'était quoi, début des années 2000, on va dire ?
Quand j'étais encore chez Google, donc 2013.
Ah, 2013, d'accord.
C'était le tout début de Tesla. Ouais. Avec un Roadster qui était... Mais c'est surtout un service et une vision qui était exceptionnelle, puisque la vision, c'était d'abord, on va sauver la planète, et la deuxième vision, parce qu'il ne faut pas oublier que Elon Musk est arrivé avec, en vendant non pas une voiture, mais une vision. Et c'est là où le prix est cher à payer. Et moi, j'adorais tellement cette voiture que j'avais une Tesla modèle 2019, avec qui j'avais acheté ce qu'on appelle le full self-driving, qui permet de conduire automatiquement, ce qui promet, que Elon Musk promet tous les ans. Heureusement qu'il se trompe dans ses prévisions, parce que ça peut peut-être nous donner de l'espoir sur le reste, mais qui se conduisait toute seule. Par un paradoxe un peu étonnant, au fur et à mesure que Elon Musk prenait des décisions sur la technologie, la voiture qui devait se conduire toute seule se conduisait de moins en moins seule.
D'accord.
Okay. Elle a régressé technologiquement. Et pourtant, j'adorais toujours la marque parce que je me disais, faut attendre, ils vont y arriver. Et à partir de 2023, ils ont sorti une nouvelle voiture. Je me suis dit, je vais racheter parce que j'y crois encore.
Oui.
Et là,
c'était la modèle 3, j'imagine.
C'était la modèle 3 nouveau truc. Et là, j'ai dit, je vais. Ils n'ont pas réussi, je ne vais pas les poursuivre parce qu'ils n'ont pas réussi le full self-driving. Je vais leur demander de me transférer la promesse que je n'ai pas pu avoir, mais que j'avais quand même payé 10 000 euros sur la voiture d'après. Ils m'ont dit oui, si vous achetez la nouvelle. J'achète la nouvelle. À me dire, on s'est trompé, on ne peut pas.
Ah.
Alors, j'ai dit, mais pourquoi vous ne pouvez pas ? Vous pouvez, et Elon Musk l'a écrit. Et c'est là où on voit le problème. Elon Musk tweet. L'équipe ne suit pas.
Mais oui, parce qu'ils ne sont pas au courant du tweet d'Elon Musk.
Ou ils ne sont peut-être pas complètement au courant. Et en fait, ils y sont arrivés. Donc très bien. Donc je vais dire, vous y êtes arrivés. Pourquoi vous ne le faites pas pour moi ? Ah mais non, parce que ça, c'est à partir de l'achat, à partir du mois de septembre. Et vous l'avez acheté en juin.
Oh mon Dieu.
Et donc, je dis, mais vous m'appelez le service client ? Personne ne répond au service client. Je dis, mais pourquoi personne ne répond au service client ? Parce que Musk a coupé les effectifs. Et qu'en fait, maintenant, le service client, c'est aussi les vendeurs de la marque. Donc, et après, je dis, mais alors, est-ce que vous avez un superviseur ? Ah non, je n'ai pas de superviseur. Ça se décide en Europe, au siège de la marque en Europe. Et donc, en fait, alors que c'était la marque qui était adorée de ses consommateurs.
Qui était une vraie marque de luxe.
Qui était une marque de luxe, mais surtout qui avait une promesse qui plaisait, etc. Ils ont
sabré, en fait.
Ils ont sabré les commandes, ils ont frustré les clients.
Bien sûr.
Et pendant ce temps-là, moi, je vais souvent en Chine. J'ai vu BYD et Huawei qui fait l'operating system des voitures, présenter des voitures toutes plus luxueuses que les unes que les autres, sur lesquelles on ne peut même pas lutter. Elles sont mieux, elles sont moins chères. La seule chose qui nous reste, c'est les tarifs.
Qui enchaîne sur Tesla ?
Peut-être essayer de tempérer un tout petit peu le fait qu'effectivement, ils ont perdu la moitié de sa valeur, Tesla, mais il faut se rappeler quand même qu'à la mi...
Après, elle avait des niveaux stratosphériques auparavant.
Oui, mais elle était tombée aussi très bas. Mi-2024, je crois qu'on était autour de $140. Là, on doit être autour de 220.
Oui.
Bon, $140, 220, on est quand même au-dessus de mi-2024.
Oui, oui, oui.
Donc,
c'est pas...
on n'est pas non plus...
C'est pas la catastrophe.
Voilà, il faudrait aussi... Bon, c'est vrai que Elon Musk a perdu 18 milliards de valorisation en une seule journée. 18 milliards de sa propre fortune en une seule journée, ce qui est assez monumental.
Et quasiment 150 depuis le 1er janvier.
Oui, alors, il a payé très très cher son ralliement. Je disais, il y a peut-être deux semaines, qu'en fait, il avait aussi gagné... pendant la période où ça a été l'euphorie en bourse. Est-ce qu'il a transformé ce gain ? On n'en sait rien. Là, effectivement, il est en train de payer cher, mais il n'y a pas que la politisation du profil de Musk, il n'y a pas que son image qui rentre en jeu. Il y a aussi le fait, comme tu le disais, Thomas, c'est que BYD et la concurrence est très, très forte. Il faut savoir qu'aujourd'hui, le nombre de voitures BYD qui sortent par an en production est quasiment équivalent au nombre de Tesla. Et la dynamique est plutôt en faveur de BYD. Donc Tesla va commencer à avoir sérieusement un problème avec les voitures chinoises. C'est très intéressant de voir comment les choses vont évoluer, et en particulier sur la question de l'innovation, parce que ils ont quand même quelques marges de manœuvre. Tout est basé sur la promesse de Tesla et notamment des robots taxis. On va voir ce qui va être annoncé dans les prochains mois. Oui, puis ce peut peut-être sauver Tesla.
Il y a ce projet aussi de nouveaux modèles un petit peu plus raccourcis.
Oui. Enfin, moins cher aussi.
Voilà, moins cher à avoir. Mais c'est vrai que tout ce que tu dis est totalement exact. Et c'est étonnant parce que Tesla était une marque hype il y a encore quelques temps. Il n'y a pas si longtemps que ça. C'était cool d'avoir une Tesla. Maintenant, BYD est en train petit à petit de prendre la place de Tesla. BYD commence à être une marque cool, je trouve. C'est sympa.
Alors, en tout cas, ils mettent des moyens. Il faut quand même aussi se rendre compte que ça fait 30 ans que l'industrie automobile sous-traite ses pièces détachées en Chine. Et donc, la qualité des voitures chinoises, elle ne provient pas du fait qu'un jour, les Chinois se sont réveillés pour dire « on va faire des bonnes voitures ». Tout d'un coup, les sous-traitants des Mercedes, etc., ils ont fourni à un fabricant local.
Bien sûr.
Et si on a un peu de temps, je peux vous expliquer comment nous, on a vécu l'émergence des constructeurs chinois. C'était une politique totalement pilotée par le gouvernement chinois qui avait une centaine de fabricants qu'il avait subventionnés. Après, il a dit « je ne subventionne que ceux qui atteignent 400 km d'autonomie ». Et peu à peu, il a créé une sorte de sélection naturelle qu'il a pilotée de A à Z.
Waouh.
Il y a 15 ans, on a des représentants de l'EDF chinois qui étaient venus nous voir de nos filiales à Hong Kong qui a dit on a besoin de faire 300 000 points de recharge pour les voitures chinoises. Donc ce pilotage et ce rattrapage par les Chinois sur l'électrique, c'est l'aboutissement, un peu comme ce qu'on découvre avec DeepSeek, c'est l'aboutissement d'une politique volontariste, systématique.
Bien sûr, à marche forcée.
Et sur un horizon de temps déterminé très loin. Est totalement insensible à des alternances électorales, à des revirements de politique.
Voilà. Avec un rôle tout à fait étonnant, joué et pas vraiment vu chez Huawei. Huawei, aujourd'hui, s'est retiré du marché européen.
Oui, notamment du smartphone et de la 5G.
Ils ont une équipe qui fait aujourd'hui deux choses. Elle fait de l'operating system des voitures. Et elle fait l'apprentissage du marketing consommateur pour les fabricants de voitures. Donc, ils sont en train d'utiliser le fait qu'ils sont devenus, eux, une marque mondiale, qu'ils ont appris à commercialiser sur les marchés occidentaux, et de l'apprendre aux 8 constructeurs partenaires qu'ils enrichissent de leur savoir-faire et à qui ils permettent d'aveler vers l'exportation. Ces gens, c'est des clients d'une de nos solutions qui s'appelle Radioline.
Pour revenir à Tesla, Philippe, retour de boomerang quand même pour Elon Musk, là, non ?
Je pense que c'est un retour de boomerang qui est très complexe à comprendre et dont on verra, à mon avis, enfin, les choses vont s'éclaircir dans les semaines qui viennent. La première, c'est ce que Thomas rappelait très bien, c'est que le full self-driving, c'est probablement la promesse de Musk dont les délais dérapent de manière la plus récurrente et le plus régulièrement. Musk a toujours réussi à faire ce qu'il disait, que ce soit dans le spatial ou dans le rachat de Twitter, il a toujours fait. Le seul domaine dans lequel il est extrêmement peu fiable, c'est les délais. Sauf sur cette question du full self-driving, où je me souviens, il y a déjà 5 ou 6 ans, qui sort Nvidia des cartes mères, qui présente ses propres processeurs pour que le board, même la carte mère de la Tesla, soit totalement maîtrisée par Tesla. Donc ça, c'est le premier sujet, c'est à quel horizon de temps. Et on va voir aussi pour les robotaxis. Pour moi, la deuxième question que certains investisseurs commencent peut-être à se poser, bon, il y a la question de la gamme, parce que c'est clair que la profondeur de gamme de Tesla
commence à être un peu poussiéreuse,
même par rapport aux Chinois, sachant qu'ils ont maintenant des designers. Je ne vais même pas revenir sur le design du Cybertruck, qui est quand même très segmentant aussi comme produit. Mais surtout, pour moi, il se passe quelque chose dans la manière dont Musk jusqu'ici jouait au Lego. Il est en train de se fragmenter dans tellement d'activités, tout en essayant de réutiliser des briques à droite à gauche, que la question qu'on peut se poser est la suivante. Le logiciel demain, l'operating system de la Tesla, ne sera-t-il pas fait par une autre boîte que Tesla, qui est xAI, puisqu'il va falloir énormément d'intelligence artificielle pour continuer à représenter l'environnement de la voiture, constituer le cerveau des Optimus. Or, les Optimus, les robots autonomes, sont pour l'instant fabriqués par Tesla. Et donc, subitement, on est en train de se demander si la partie intelligente qui est le Graal, on voit bien comment les Américains continuent de s'obséder sur le sujet, tandis que les Chinois développent et sont plus agiles. Encore une fois, est-ce que vous achetez pendant très longtemps? Je vais prendre l'analogie suivante. On disait que les seules personnes qui savaient faire des voitures étaient ceux qui maîtrisaient le moteur. La promesse de la voiture logicielle, c'est ceux qui maîtrisent l'operating system et l'intelligence. Or, si l'intelligence est faite par quelqu'un d'autre, même si c'est Musk...
Sur ce sujet, peut-être deux remarques. La première, c'est que pourquoi Tesla a mis a vraiment gagné de la part de marché sur les constructeurs européens, parce qu'ils maîtrisaient une technologie qu'on appelle l'OTA, qui permet de mettre à jour essentiellement à distance, de manière efficace et sécurisée, le logiciel de la voiture.
Ça a été la signature de Tesla, ça. Et c'est toujours encore.
Illégal, c'est ça qui est extraordinaire. C'est-à-dire qu'il n'y a que les Américains pour réussir à faire ça. Quand on certifie une voiture, on la certifie avec un logiciel. Parce que quelque part, les normes
de sécurité.
C'est extrêmement. Et Musk a réussi à faire admettre.
Craquer le truc.
Qu'on pouvait faire un update, comme un Windows Update, etc., de la voiture et de rajouter des fonctionnalités. Ce qui, dans le cadre de la régulation des voitures, est interdit. Hein. Mm-hmm. Et donc, il continue à travailler dans l'égalité la plus totale, mais tout le monde adore ça, parce que finalement, on a de nouvelles fonctionnalités avec la même voiture. Et donc, de créer une relation entre.
Et puis, il y a peu de problèmes.
Et puis, de les vendre. Et puis, si je peux t'interrompre, et puis de les vendre, parce que subitement, le pack sport, on peut l'acheter après. D'une certaine manière, et je caricature, mais on donne son numéro de carte bancaire, et subitement, de nouvelles fonctions apparaissent.
Ouais, c'est presque une voiture en freemium. Alors, qu'on achète.
Oui, avec un petit bémol. Je ne sais pas si tu as regardé ou si c'était déjà le cas à l'époque, mais quand tu as signé le contrat d'achat de ta voiture, est-ce que tu as signé également un contrat de licence d'utilisation?
Toujours avec l'application, en fait. Ils le font signer dans le cadre de l'application.
Ce qui veut dire que je crois qu'à l'époque, en tout cas, il fut tout un temps où tu ne pouvais pas, quand tu revendais ta Tesla, revendre tes options logicielles.
C'est maintenant possible.
Mais au départ, ce n'était pas nécessairement le cas. Dès que le contrat était attaché à la voiture et à toi, en tant qu'utilisateur.
Donc tu vends ta Tesla, tu avais, je sais pas moi, 10 options, la voiture autonome, etc. Tout se perdait, en fait.
Oui, mais là, tu peux vendre la voiture. Tu peux même transférer tes options sur l'achat d'une nouvelle voiture. Okay. Alors, toi, tu ne l'as pas pu, mais maintenant, c'est désormais possible.
Ils ne veulent toujours pas me le faire.
Peut-être pour toi, en effet. Bon. Mais juste pour revenir
sur Thomas Serval, mesdames, messieurs, quand même, faites un effort.
Oui, Elon, si tu nous entends.
Oui.
Michel. Ça marche d'ailleurs, le mail à Elon.
Ce serait une belle nouvelle. Non, mais par rapport au FSD, ce qui a été dit tout à l'heure, il faut quand même rappeler une chose. Le FSD fonctionne aujourd'hui. Le FSD, il y a deux versions du FSD. Il y a la version 12.6 qui existe en Europe et il y a la version 13. Quelque chose qui existe aux États-Unis.
Oui.
Et la version américaine...
Ils sont incomparables, les deux.
Ils sont totalement incomparables parce que vous rentrez dans une voiture Tesla qui a le FSD 13.2 aux États-Unis, vous appuyez sur un bouton, vous ne faites rien, elle vous conduit. Le FSD fonctionne aux États-Unis.
On est obligé de tenir le volant de temps en temps.
Et très rarement, voire pas du tout. Il s'avère qu'ils l'ont annoncé il n'y a pas si longtemps, ils sont prêts à le déployer en Europe. Le problème, c'est que la régulation européenne n'a pas encore autorisé le nouveau FSD sur l'ensemble de véhicules européens. Donc, ce n'est pas un problème technologique, c'est avant tout un problème de régulation. Et c'est là où je voulais en venir. C'est que le pari de Musk, qui est un pari politique, est potentiellement en train de le mettre dans une situation très, très délicate. Ouais. Un, parce que, il va avoir beaucoup de mal à innover dans certains pays, en l'occurrence en Europe. Deux, les tarifs sur les produits américains en Chine vont quand même beaucoup et l'inverse, parce que forcément, les Chinois vont forcément réagir. Donc, Tesla risque d'être dans une position très délicate par rapport à BYD. Donc, le pari politique de Musk est en train de devenir un boulet pour Tesla et ça va être très intéressant de voir comment Musk va évoluer par rapport à ça. Il a perdu potentiellement la moitié de sa fortune, pas loin, un tiers de sa fortune là. Dans les mois qui viennent, est-ce qu'il va continuer à être le troublion de Trump ou est-ce qu'il va commencer à prendre un peu de recul pour essayer de préserver le plus possible son business?
Sachant que, on l'évoquera peut-être dans un des sujets suivants, mais il y a d'autres sociétés de Musk qui sont potentiellement en difficulté. Je crois qu'en termes de régulation et d'autorisation pour Neuralink, c'est compliqué là sur sa société d'implants cérébraux. SpaceX est dans le collimateur de la FAA. Il y a même des poursuites, je crois, qui ont été engagées sur deux vols civils réalisés récemment. Donc on est en train d'atteindre la limite de l'exercice. Et là, je ne parle même pas de la quantité de temps qu'il alloue à chacune de ces activités qui continuent d'être différentes les unes des autres. Et donc, la difficulté d'attention, de focus et surtout de vision de moyen-long terme dont il va être capable.
Parce que tout surdoué qu'il est, effectivement, il ne peut pas avoir la vista sur 10 activités complètement différentes. Après, il est très bien entouré. Hein.
Et la kétamine a une limite, quand même.
Et puis la kétamine a une limite.
Il y a un sujet de conflit d'intérêts, évidemment.
C'est clair.
Et puis, il y a la manière dont Trump va ou pas reprendre un peu de longueur de laisse.
Pour voir quand même avoir été... on a beaucoup de multinationales américaines clientes. L'essentiel de l'exercice, et pour avoir été dirigeant de certaines en Europe, dans les multinationales, c'est de protéger la marque. Le travail, c'est... je me rappelle, chez Google, on a arrêté les robots parce que ça mettait en danger la marque, etc. Et quand la marque, c'est la combinaison de l'individu Musk, parce que finalement, Tesla, c'était Musk, et quand lui abîme sa marque en s'associant ou en polarisant son image, toutes les manières, ça a des conséquences sur l'ensemble de la chose. Sachant qu'on n'a jamais acheté Tesla et payé Tesla comme un marchand de voitures. On le payait comme une société d'innovation, d'intelligence artificielle. Bien sûr. Et donc, quelque part, à partir de ce moment-là où la marque se fragmente, eh bien, elle perd de sa valeur. Et donc, ça, c'est quelque chose qui est inhérent au modèle de Musk. Et néanmoins, c'est pour ça qu'il a quand même, sur certains sujets, une énorme avance en termes de savoir-faire et d'industrialisation que peu d'Américains ou de sociétés américaines ont. Il a fait du hardware at scale, alors que tout le monde rigolait, les Mercedes, etc. Il a été le seul à vraiment industrialiser ou réindustrialiser.
Il a fait l'intégration verticale at scale, alors que tout le monde était sur des modèles en couche. Il est très impressionnant.
Alors, il est très impressionnant, mais en ce moment, il est un petit peu chahuté, parce qu'au-delà de Tesla, il y a X. Je ne sais pas si vous avez suivi, mais X est la proie d'attaques massives ces dernières heures. C'est une panne qui a eu lieu, c'était hier. Évidemment, le service a été rétabli le 11 mars. X dit que c'est que quelques milliers d'utilisateurs qui ont été touchés. Moi, franchement, je n'ai pas eu de problème sur mon compte X. Tout fonctionnait bien. Et Elon Musk dit ceci, nous sommes attaqués tous les jours, mais celle-ci a été organisée avec beaucoup de ressources. Un grand groupe coordonné est impliqué, ou alors un pays. On suit la piste, dit-il.
Oui, oui, il a même annoncé lors d'une interview qu'ils avaient tracé des adresses IP et que... A priori, l'Ukraine serait derrière ces adresses IP. Ce qui est quand même très... il l'a dit lui-même. Hein, ce qui est quand même très étonnant parce que apparemment, il y a un groupe de hackers qui s'appelle Darkstorm qui a revendiqué l'attaque. Et Darkstorm, a priori, sont connus comme des hackers, un groupe russe.
Russe, bien sûr.
Donc, est-ce que c'est vraiment une attaque? Est-ce que vraiment... pour quelles raisons? On ne sait pas trop. Ce qui est sûr, c'est que dans la situation géopolitique actuelle, la guerre hybride va se démultiplier et on risque de voir de plus en plus ce type de phénomène.
Et de services qui tombent.
De services qui tombent, pas que X. Évidemment, il y a eu quelques bruits sur les réseaux d'autres services qui ont subi des problèmes hier, avec aucune confirmation d'attaque de ces 10 services, MailChimp.
Et tout ça, rien à voir avec la panne de Bouygues Télécom de ce matin.
Et rien à voir avec la panne de Bouygues Télécom. Ce matin, l'ANSSI a communiqué d'ailleurs sur un certain nombre d'informations. En France, il y a une augmentation de 15% des attaques cyber. Ces derniers mois. Donc, on est rentré dans une phase d'accélération aussi de ces attaques cyber. Il va falloir se préparer. Il va falloir individuellement et collectivement se préparer à ça.
Justement, Michel, tu évoquais cette augmentation de 15% par rapport à l'année précédente, donc ces cyberattaques. Je vous propose d'écouter le directeur général de l'ANSSI. Tiens, tu l'évoquais il y a un instant. Vincent Strubel, c'était ce matin chez nos confrères de France Inter. Ça dure quelques secondes, c'est intéressant. Et puis évidemment, on poursuit le débat juste après.
La logique, elle n'est pas forcément ciblée de la part de ces groupes-là. Ils font une forme de pêche au chalut qui fait que face à cette menace, on peut très bien être une victime sans être forcément une cible. Ils attrapent ce qu'ils peuvent. Ils attrapent des hôpitaux, ils attrapent des collectivités territoriales qui ne sont pas non plus richissimes et ne payent pas des rançons. Ils attrapent des entreprises. Ils attrapent malheureusement les entités les plus fragiles, des établissements d'enseignement aussi. C'est pas nécessairement des établissements qui payent des rançons, mais c'est des établissements qui subissent ces menaces-là, qui sont profondément perturbés dans leur fonctionnement.
Voilà, donc c'était Vincent Strubel, le directeur général de l'ANSSI. On note donc cette augmentation des attaques de 15% par rapport à l'année précédente, et c'était déjà les années précédentes assez costaud, visiblement. Voilà. Et puis en plus, dans le contexte géopolitique actuel, ça ne peut qu'augmenter.
De toute manière, déjà, on a de plus en plus d'objets connectés, donc on a de plus en plus de cibles. Ces produits ont été construits pour beaucoup de manières assemblées en Chine d'un côté, avec du logiciel qui n'est pas toujours bien contrôlé. En fait, si on regarde en tant qu'expert ces domaines, parce que nous on connaît bien les domaines de la cybersécurité des objets connectés, il y a un nombre de vulnérabilités incroyables. Et d'ailleurs, le paradoxe, c'est souvent les plus fragiles des objets ne sont pas ceux qui sont fabriqués en Chine, mais plutôt ceux qui sont fabriqués en Europe. Et donc, quelque part, c'est normal que ça augmente. Ce qui est plus embêtant pour moi, c'est que le coût économique de ces attaques va aussi exploser. C'est-à-dire, quelque part, l'importance qu'ont ces objets connectés dans les différents systèmes, ça va devenir, et c'est pour ça que maintenant, il y a de la cyberassurance et des choses comme ça. Ça devient difficile pour les entreprises de s'assurer qu'on est en cybersécurité. Il y a une sorte de collaboration qui est en train de s'établir, parce que jusqu'à présent, les attaques de cybersécurité, c'était une maladie honteuse. C'est-à-dire, quelque part, on en avait une, on payait discrètement et on n'en parlait pas. Ce qui entraînait, dans beaucoup de cas, le paiement de rançon et un écosystème criminel de se développer, mais également la perte de l'intelligence collective. C'est-à-dire, quelque part, si on a été attaqué, comment on explique ce qu'on a déjà fait ?
Oui. Et comme on gardait tout pour nous ?
Et donc ça, c'est quelque chose, je pense que sous l'égide de l'ANSSI, de différents, la DGSI, etc., en France, on commence à avoir systématiquement dans les entreprises ce sujet. Il fait maintenant partie du référentiel que doivent vérifier les commissaires aux comptes dans les sociétés cotées ou même dans la certification des comptes. Donc, on est en train de s'éduquer. Mais c'est une éducation permanente. Nous, on vient de faire un test sur du phishing auprès de nos collaborateurs. On a 90% d'ingénieurs. Hein. Eh bien, 40% sont tombés dedans. Avec du DocuSign, qui est la nouvelle technique d'attaque assez intelligente. On vous demande de signer un document pour recevoir un truc, et hop, vous mettez vos informations. Et hop. Et donc, quelque part, tout le monde peut tomber. Et donc, il faut vivre avec une certaine paranoïa sur ces sujets-là. Parce que le nombre de risques ne va faire qu'augmenter.
Au-delà de la paranoïa, un mot là-dessus, mais très rapide. Je pense qu'on rentre, effectivement, le président de la République l'a dit, on rentre dans une économie de guerre. Face à cette économie de guerre, il faut que les entreprises se dotent d'outils, fassent de la simulation, fassent des scénarios et se préparent à des situations. Et pas que les grandes entreprises, les moyennes et les petites entreprises doivent aussi se préparer à ces situations d'attaque cyber. Et il y a plein d'outils aujourd'hui qui existent, qui sont capables de les aider à le faire.
Je voudrais juste faire deux petites remarques. Personnellement, je ne crois pas aux propos tenus par Elon Musk sur un État, parce que ça fait partie du béaba de la diplomatie de faire en sorte que ce type d'intervention ne puisse être frappé, ce qu'on appelle dans le jargon, d'attribution. Je serais très surpris ou très intéressé de voir les adresses IP qui ont été retrouvées. Je pense que c'est des proxys ou des clampins. Et sinon, je vous invite, mais je ne citerai pas la plateforme, mais je vous invite à regarder la mini-série Zero Day, qui, avec un Robert De Niro exceptionnel, et qui donne assez bien l'idée de ce qui se passerait le jour où, là, on vient de dire que tout se multipliait, mais on n'a pas encore vu de choses simultanées.
Le blackout.
La question, c'est le jour où... ça fait partie...
Quand tout s'arrête.
C'est un sujet sur lequel, d'ailleurs, l'OTAN bosse très régulièrement, puisque l'exercice Lock Shields, moi, que j'ai hébergé à l'EPITA pendant 2 années de suite, c'est un exercice de simulation de l'attaque simultanée de toute une infrastructure, toute une ville, système bancaire, etc.
Ouais, sur Netflix, 0D, avec Robert De Niro. Petite série sympa qui se déguste très rapidement. Thomas, Michel et Philippe, vous restez avec nous. Petite pause, bientôt 20h30. Et on repart dans le débrief de l'actu tech et on évoquera Manus AI, qui est une nouvelle IA autonome qui est totalement bluffante. Encore une fois, nos amis chinois tapent fort. À tout de suite, dans une minute, nous sommes de retour.
Tech & Co, la quotidienne, le débrief de la tech.
Voilà, comme chaque soir, on plonge la tête la première dans l'actualité tech. Et vous le savez, tous les soirs de 20h à 21h, eh bien, on revient sur les grands titres qui ont fait la une de tous vos sites web dédiés justement aux technologies. Avec ce soir pour commenter l'actu, Thomas Serval, le PDG de Barracoda, Michel Lévy-Provençal, prospectiviste, fondateur de TEDx Paris et de l'agence Brightness, et Philippe Devost, fondateur de Phileos, ancien directeur général de l'EPITA et l'un des papas de Wanadoo. Messieurs, je vous propose maintenant de parler d'intelligence artificielle et de, d'évoquer Manus AI. Parce qu'après DeepSeek, la Chine fait de nouveau parler d'elle, justement dans l'IA générative, avec le dernier modèle en date qui s'appelle Manus AI, qui est le premier agent d'IA général. On en a beaucoup parlé dans Tech & Co. Hein. Alors ça, c'est le créateur hein, qui dit que c'est le premier agent d'IA général. Un outil très puissant, capable d'exécuter donc des tâches complexes sans aucune intervention humaine et surtout moins cher, open source et plus économe en énergie que ses concurrents américains. Mélinda Davansoulas, ce matin, nous expliquait donc les points forts de Manus AI. C'était dans Good Morning Business.
Manus AI, ça a été la petite révolution du week-end. Depuis le 6 mars, on a vu débarquer donc ce nouvel agent IA. Alors vous savez, ces agents IA, ce sont ces logiciels qui sont dotés d'une intelligence propre, qui sont capables de comprendre l'environnement, le contexte, pour prendre des décisions et agir tout seul, sans intervention humaine. Donc là, on arrive vraiment à quelque chose de supérieur. Et pourquoi on parle de Manus AI? Pourquoi il a fait sensation? Parce que, comme DeepSeek, il vient de Chine, donc forcément, on regarde ça de plus près. Et puis surtout, il est capable de gérer des projets entiers extrêmement complexes. Par exemple, vous cherchez un appartement, eh bien, il va avoir vos critères habituels. Il est capable d'étudier un marché autour de chez vous, les endroits où vous cherchez, et vous faire une liste complète des annonces auxquelles vous pouvez répondre.
Pas mal.
Pareil en entreprise, vous recevez plein de CV, il analyse tout et il vous dresse une liste des profils parfaits pour le poste que vous convoitez.
Et ça, les Gemini et ChatGPT, aujourd'hui, ça ne fait pas?
Eh bien non, parce qu'en fait, Manus AI, il a une architecture très particulière. C'est un agent IA qui se sert d'autres agents spécialisés en IA. Qui sont capables, par exemple, de faire de l'analyse de documents, de l'automatisation. En fait, ils travaillent, c'est comme si c'était une équipe d'agents IA. Donc, ils sont tous performants, tous en même temps, et ils se complètent.
Voilà, c'est ça qui est intéressant, c'est cette petite équipe d'agents IA spécialisés. Et après, c'est l'IA qui va sélectionner tel ou tel agent suivant la question ou la problématique qu'on pose. Michel, et après Thomas.
C'est pas une nouveauté, en réalité, ces architectures en fait, d'agents. On rentre dans l'époque de l'agentique, mais ce n'est pas nouveau parce qu'il y a 2 ans déjà, on avait des projets, alors certes, qui étaient des projets open source, labos, j'en cite 2 parce que je les ai moi-même testés. Mm-hmm. Hein. Il y avait Baby AGI, pour les plus geeks d'entre vous, et puis AutoGPT qui avait cette approche qui consistait à utiliser un modèle, en l'occurrence par exemple GPT-4o, et ensuite faire appel à des modules externes, par exemple aller chercher sur Internet, essayer de lister un certain nombre d'actions pour réaliser une action que l'utilisateur demande de manière totalement autonome. Donc vous pouviez le laisser pendant une demi-heure travailler, c'était très coûteux en token, c'est-à-dire en usage de l'IA, mais il vous rendait une réponse. Donc ce n'est pas une architecture nouvelle, c'est quelque chose qui existe depuis quelques années. La force là, c'est l'effet produit. C'est-à-dire que là, on a avec Manus AI, en plus, un bon marketing, hein, parce que pour pouvoir y accéder, il faut une invitation. Ouais. Ils sont encore en bêta privée. Ils font énormément parler d'eux. La technologie n'est pas nouvelle, mais le produit est ce qui est le plus intéressant.
Oui, ils l'ont rendu désirable.
Ils l'ont rendu hyper désirable. Et puis, le dernier point, c'est que ça ouvre quand même. C'est une très jolie démo, en réalité, Manus AI. Mais ça ouvre un champ nouveau. Ça nous annonce, en fait, une révolution radicale qui est que nos entreprises vont de plus en plus être automatisées avec ce type d'agent à plein d'endroits de la chaîne de valeur et qu'il va falloir s'y préparer. C'est déjà le cas aujourd'hui. Les entreprises commencent à intégrer des agents intelligents. Là, il est un peu plus évolué. L'année 2025 est l'année de l'agentique.
Ouais, c'est clair. Visiblement, il sera entraîné sur Claude d'Anthropique ou encore d'autres modèles chinois. On parle de DeepSeek et de Qwen, qui est celui d'Alibaba.
Alors,
Thomas
Non, ce n'est pas très nouveau, parce que nous, on a sorti au CES un produit qui s'appelle Biconnect, qui est un agent AI multi-agent qui fait exactement ce qui se passe, c'est-à-dire de l'orchestration. Donc, il ne faut pas avoir... il y a du marketing incroyable
pour les Chinois. Mais on fait aussi bien.
Enfin, nous, on a sorti un produit qui s'appelle Biconnect, qui fait la même chose qu'eux sur la conception d'objets connectés, avec rédaction de CV, génération de code, compréhension du langage naturel. Et donc, comment ça se passe? Comment ça se marche? Donc déjà, première chose très importante, c'est l'open source. Ce dont on est en train de voir les effets aujourd'hui, c'est vraiment la révolution de l'open source dans l'IA. C'est-à-dire qu'on a explosé le modèle fermé OpenAI. Maintenant, toutes les innovations peuvent être réinventées, repackagées, remarketées. Et c'est ça qu'on... enfin, on va avoir un Manus 2, 3 ou 4.
C'était pas nouveau, hein, parce que AutoGPT était déjà open source.
Non, mais ça, c'est un... enfin, ce qu'on est en train de voir, c'est cette profusion qu'offre l'open source dans tous les domaines. Et donc, il va falloir pas tomber dans le piège marketing. Après, sur les technologies sous-jacentes, il y en a une qui est très importante, qui s'appelle l'orchestration. On voyait bien que le problème des modèles générationnels, c'est que ils comprenaient que le langage et qu'en fait, il faut utiliser des compétences différentes. C'est-à-dire qu'il faut utiliser parfois des AI prédictives, parfois des AI génératives. Et sans le dire trop, ils font ça. C'est-à-dire quelque part, ils font du mix entre différents modèles. Et donc après, il y a un deuxième élément qu'on utilise beaucoup, notamment sur l'AI et la santé, qu'on appelle les mixture of experts, qui sont aussi un autre de ces aspects. Et encore une fois, moi, j'ai l'impression que ce projet, comme beaucoup d'autres qui vont sortir de Chine, vous allez en retrouver dans tous les sens. Les technologies open source aujourd'hui permettent de faire ça. Les questions qui vont être posées, c'est la fiabilité du résultat. Quel est le degré de confiance et de délégation qu'on peut faire par rapport à ces agents et comment
parce que
on va...
ça peut halluciner comme...
Voilà,
comme
et comment on va évaluer leur performance et comment on va sécuriser que les données qui vont être capturées dans ce cadre-là vont être traitées conformément aux lois et aux règlements en vigueur. Le système reçoit des CV, où est-ce que vont les données de ces CV, est-ce qu'ils sont hébergés sur un serveur chinois, etc.
Et puis il y a une deuxième dimension qui, à mon avis, est très très importante, qui est la dimension asynchrone. C'est-à-dire le fait que l'agent, précisément, c'est pour ça qu'on l'appelle un agent, ça remonte d'ailleurs à très longtemps, ça remonte à nos camarades de General Magic. Mais l'agent, c'est celui qui va faire pour ton compte, y compris lorsque tu n'es pas là. Et donc, c'est la question de la délégation que tu commençais à soulever, qui derrière va nous apporter une très jolie question sur l'assurance, qui va être de savoir si l'agent fait des dégâts, entre guillemets, soit à ton portefeuille, soit à celui de Michel, soit dans une prise de décision qui a été opérée par délégation, la question de la responsabilité va se poser.
Et l'échange entre deux agents. Ah, si vous avez deux personnes en charge de faire une tâche, on voit ça dans les démos qui sont en train de sortir, comment deux IA qui ont une tâche vont pouvoir converser entre elles.
Il va y avoir un champ extraordinaire sur la conception de la négociation entre agents, etc. Mais moi, je voudrais juste revenir sur un point que tu évoquais, Michel. C'est vrai que ce n'est pas nouveau, c'est très clair. Tu as oublié de citer, et je les cite parce que d'abord, je les utilise, et puis parce que c'est une boîte française, mais Dust... Oui. D'une certaine manière, Dust.tt te permet de paramétrer des tâches. Alors, là où ils ne sont pas encore parfaits, c'est sur l'asynchrone. C'est-à-dire que tu ne reçois jamais, mais enfin, OpenAI, ChatGPT, promet depuis des mois de t'envoyer un email lorsqu'il aura terminé sa recherche. Il ne le fait jamais, puisqu'il n'est pas câblé pour ça. Donc, il y a cette dimension d'asynchrone. Et le fait, je crois que c'est ça qui intéresse beaucoup, c'est que dans l'environnement qui est proposé, il y a un navigateur web intégré qui permet de simuler des choses, il y a un environnement de développement, il y a un terminal qui permet de commencer à agir sur des sites, sur des interfaces externes pour ton compte. Bon, j'observe cela étant que les bêtas et les démonstrations sont hyper contrôlées, que ça n'a pas encore été ouvert au grand public, donc que personne ne peut réellement encore benchmarker ou enfin tester pour parler français, la réalité de ce qu'ils font.
Mais pour rebondir sur ce que dit Philippe, et tu as tout à fait raison, je pense que les entreprises aujourd'hui, encore une fois, ont tout intérêt à regarder ça. Après, il y a des outils qui existent, qui sont sur le marché, qui sont open source. Je cite N8N, par exemple, qui est une plateforme open source qui permet, presque sans code, de déployer des agents intelligents et d'analyser une chaîne de valeur et de pouvoir dire, à cet endroit, je vais automatiser avec un agent qui va utiliser tel ou tel modèle, d'ailleurs pas forcément OpenAI, ça peut utiliser DeepSeek d'un côté, ça peut utiliser Mistral de l'autre, ça peut utiliser OpenAI, on peut les changer. L'intérêt, c'est que c'est open source. Et donc, à l'heure où on a besoin de souveraineté et d'autonomie, il faut que les entreprises commencent à regarder ça de très près et à s'interroger sur la manière dont elles peuvent rentrer de plein pied dans cette nouvelle ère de l'entreprise automatique.
Hein, je pense qu'il faut vraiment maintenant...
C'est plus du marketing. Là, on rentre dans l'ère de.
Non, mais ce que je ne parle pas du marketing en tant que fake. J'ai le déficit marketing, une notoriété. Le nombre d'outils mis à disposition des entreprises. Il y a des nouveaux agents qui arrivent tous les jours. Lequel est le meilleur? Comment choisir tel et tel? La problématique, c'est qu'aujourd'hui, naturellement, OpenAI ou les Américains lancent un produit, ils ont une couverture médiatique majeure. Et maintenant, depuis DeepSeek, les produits chinois bénéficient d'une couverture et d'une amplification médiatique extraordinaire.
Oui, puis parce qu'il y a pas, là dans les annonces, pardon de t'interrompre, mais dans les annonces très très récentes, il y a Alibaba dont le modèle, la dernière version de Cohen a encore explosé à peu près tous les benchmarks. Oui. Et Tencent avec Tencent, ils doivent bien aimer l'Allemagne parce que leur truc s'appelle Union, mais alors c'est Turbo S. Donc on a l'impression de se croire à la terre, on se croit à l'arrière d'une Porsche.
C'est ça.
Et qui manifeste, enfin qui non seulement explose tous les benchmarks, mais en plus à chaque fois franchit un pas en termes de réduction de coûts qui est de plusieurs ordres de grandeur. Je crois qu'Alibaba est 6 fois moins cher que DeepSeek, si ma mémoire est bonne, sur ce modèle-là.
Peut-être aussi deux remarques. En fait, moi, je suis beaucoup l'AI professionnellement. Et depuis 3 ans, j'allais très régulièrement en Chine. Et il y avait quand même une volonté du gouvernement chinois, parce que rien ne se passe par hasard en Chine, de rester très low profile. Et donc, ce qui a l'air de sortir là, et si on peut voir les effets...
C'est le fruit de plusieurs années de travail dans la discrétion la plus absolue.
La discrétion la plus totale. Il faut voir qu'à Shenzhen, qui est la capitale de l'AI, des voitures qui se conduisent, il y a une photo de vous par seconde qui est prise. Une photo de vous par seconde. Donc, imaginez, sur 20 millions de personnes, la collection de données incroyable qui a été faite dans le cadre d'une régulation chinoise qui n'est pas vraiment aussi protectrice, etc. Donc, les Chinois sont extraordinairement forts, aujourd'hui notamment sur le traitement de tout ce qui est images. Ils ont décidé, et ils le décident maintenant, c'est une stratégie assumée suite au problème qu'a rencontré Huawei, de la jouer très low profile. Et là, depuis, j'ai l'impression, DeepSeek, mais ça s'est renforcé un petit peu avec le retour de Jack Ma et le fait que Xi Jinping maintenant réaccueille, comme pour un peu faire pendant à Trump et ses milliardaires de la tech, ils sont en train de revenir sur le devant de la scène. Donc, je pense qu'il faut aussi se dire que derrière, il y a une volonté délibérée de la puissance chinoise d'affirmer sa suprématie, ou en tout cas sa compétitivité, de ne pas laisser le leadership américain.
Et pendant ce temps-là, OpenAI nous a lancé un ChatGPT 4.5 qui est quand même assez décevant.
Très simple.
En tout cas, ou alors on n'a pas compris comment lui parler. Parce que avec ces histoires de numérotation, on s'attendait à ce qu'il soit une fois et demie mieux que O3. En fait, pas du tout. Bon, Sam Altman semble tester des pricing de temps en temps, en disant ce serait peut-être 20 000, mais je suis pas sûr, etc.
Donc j'aimerais. Enfin, ouais, c'est.
Eh bon, tout en ayant déjà les pertes projetées pour l'an prochain, c'est quoi? C'est 44 milliards.
C'est un Twitter quasiment.
Voilà. Et puis pendant ce temps-là, moi, il y a mes vieux amis d'Apple. On sait toujours pas où ils sont.
Bah oui. Bah vous avez vu que Siri, la version Siri boostée. L'IA générative devait sortir dans quelques mois, elle est reportée en 2026, je crois.
C'est vraiment une catastrophe.
Ouais, c'est une catastrophe.
Apple, ils sont en train de changer aussi, parce qu'ils sont en train de basculer potentiellement sur Google, là où ils avaient commencé à travailler avec OpenAI. Ouais. Donc, Apple est très mal sur le plan de l'IA, ça c'est clair.
Après, ils font low profile, comme tu le disais, par rapport à nos amis chinois. C'est-à-dire que là, ils attendent d'avoir un produit, puis c'est un peu la particularité d'Apple, on le sait tous ici, ils attendent d'avoir un produit parfait, qui correspond aux attentes des utilisateurs.
Oui, mais la différence, François, c'est, pardon de t'interrompre, mais la différence, c'est que le paysage change tellement vite, le marketing et l'intelligence du marketing de sociétés comme Manus est tellement efficace que
Oui, tu veux dire par là que...
L'environnement dans lequel le produit va finir par sortir bouge énormément et nécessite des adaptations à la vie, dont Apple ne semble pas capable en termes d'agilité.
L'image de la marque Apple, ils sont en train de devenir poussiéreux à force d'être complètement largués. Je vous rappelle quand même que Samsung intègre aujourd'hui des IA de dernière génération dans leur téléphone, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Oui. Vous avez un Samsung, vous avez des...
Il faudrait voir le bénéfice aussi.
J'ai rencontré le monsieur qui l'avait fait chez Samsung, qui d'ailleurs est un Français, c'est ça qui est assez drôle. C'est un Français qui a réinventé l'interface de Samsung pour intégrer l'IA nativement, et c'était pas facile pour Samsung. Moi, j'ai l'impression que il va y avoir vraiment deux batailles. Il y a une bataille presque scientifique des moteurs sur lequel il se passera quelque chose tous les jours. Puis après, il y a la bataille de la confiance du consommateur avec son objet du quotidien. Et ça, c'est une bataille qui aujourd'hui bénéficie à Microsoft, qui a réussi à cacher derrière Copilot, hier OpenAI, maintenant ses propres technologies, des partenariats avec d'autres fournisseurs. Et donc, quelque part, il va y avoir d'un côté une bataille des interfaces qui vont être contrôlées par les marques dans lesquelles les consommateurs ont confiance. Et ces marques font très attention, parce que quelque part, il suffit d'une fois pour perdre confiance, une fuite de données. Et Apple, s'il y a bien une chose sur laquelle il a toujours capitalisé, c'est ça. Et donc, je pense qu'ils ont considéré que la valeur ajoutée consommateur de leurs produits n'était pas suffisante. Et chez Apple, c'est comme ça, les gens ignorent, le code de l'iPhone, c'était P2. Le premier, Steve Jobs l'a jeté. Et l'iPad, je crois que c'était la deuxième ou la troisième génération. Donc Apple a, un degré d'exigence quant à la qualité de ses produits par rapport aux bénéfices utilisateur final, qui n'est pas un bénéfice technophile, qui est un bénéfice réellement autour de la confiance dans la marque et dans, la premiumité.
Et puis dans l'ergonomie, surtout.
De l'ergonomie. Enfin, et donc, je pense qu'ils n'ont pas trouvé le bon mix que toute cette, ces développements open source sont quand même en train de permettre à un copilot d'un côté, donc à Microsoft sur le marché de l'entreprise, et un Apple qui garde quand même les meilleurs chips sur les terminaux, les meilleures interfaces aujourd'hui, et la confiance des utilisateurs, c'est pas si défavorable que ça à ce stade.
Bien sûr.
Bon, eh ben écoutez, pas mal. Si on enchaînait sur un autre sujet très intéressant, on va aux États-Unis pour évoquer, eh bien, on va dire, toujours ce même sujet antitrust et Google. Google qui doit vendre Chrome. Alors, cette histoire avait commencé sous l'ère Biden, je ne sais pas si vous vous en souvenez, parce que c'est vrai que l'hégémonie de Google, elle est tellement impressionnante que même le gouvernement américain se dit, écoutez les gars, là ça se voit, quoi, c'est quand même énorme. Google, c'est Chrome, c'est Gmail, c'est Android, il va falloir un peu séparer tout ça. Et on s'était dit qu'avec l'ère Trump, ça allait peut-être changer. Visiblement, ça n'a pas changé, puisque je vous rappelle que cette administration de Donald Trump qui s'inscrit dans celle de Joe Biden, reprend exactement les mêmes conclusions, en fait, que celle de Biden. Et c'est pareil, c'est-à-dire que là, Google se retrouve au pied du mur et va être obligé de se séparer de Chrome, Chrome qui est son navigateur Internet, qui est quand même, on va dire, la vache à lait de Google aujourd'hui. Évidemment, Google a son moteur de recherche, évidemment, il a son cloud, etc., etc. Mais le navigateur Chrome, c'est la porte d'entrée d'un business incroyable.
Alors, c'est pas la vache à lait.
C'est pas la vache à lait.
Ça leur rapporte que dalle. Par contre, ça leur donne, on parlait de ces interfaces, c'est la même question que Copilot, etc. Ça leur donne le premier accès entre l'utilisateur. Et donc, quelque part,
oui, c'est un coup de billard à trois bandes, quoi.
C'est le gatekeeper. Et effectivement, il y a peu de gatekeepers. Chrome en est un. Dans le passé, c'était Windows qui avait mis Internet Explorer et à qui il est arrivé la même chose. Hein, dans les procès antitrust, c'était le bundle entre Windows et Internet Explorer qui avait entraîné la demande des autorités d'ouvrir Internet Explorer. Si on prend l'exemple de Microsoft qui s'est retrouvé quasiment dans une situation pareille, ils ont montré une résilience juridique extraordinaire pour finalement payer une grosse amende et ne pas avoir à le faire. Moi, ce que je ne sais pas comment ça va jouer, mais l'administration Trump est tellement pro-business que
tu penses qu'ils vont s'arranger ?
Je pense que, à moins que Google se soit mis largement dans le camp démocrate, ce que je doute, puisqu'on a quand même vu toute la partie public policy de toutes les boîtes de la Silicon Valley se rallier derrière Trump, je pense que ça va se régler. Mais après, je ne parle pas de l'intérêt du consommateur. Je pense plutôt que Trump a rarement eu des discussions anti-business américain sur ces dernières 45 jours.
Bon, après, évidemment, Michel et Philippe, vous allez pouvoir enchaîner, mais il y a un autre sujet aussi qui est très intéressant. C'est, vous savez, le fait que Google apparaisse sur Safari, sur l'iPhone. Ça aussi, le Doge remet en cause ce truc-là, qui rapporte, je crois que c'est 15 milliards de dollars par an à Apple.
Ouais, 13 de montant, mais ça doit être au moins 15.
C'est dingue. Simplement le fait que quand vous allez dans le champ du moteur de recherche de Safari, vous tapez sur Google, en fait. Tout ça aussi, le gouvernement veut l'arrêter.
Celui qui tient le navigateur tient les premières choses qui sont proposées, les premières portes d'entrée vers le reste.
Bien sûr.
Il y a deux remarques qui me sont venues, qui sont peut-être un pas de côté par rapport à ce qu'on vient de se dire. C'est d'abord de voir comment les Américains réagissent par rapport au potentiel monopole. L'UE, on a tendance à frapper au portefeuille à hauteur de 10% du chiffre d'affaires, là où les Américains cassent complètement.
On en parlera tout à l'heure, on n'est plus à 10% là. Hein.
Les Américains utilisent une arme beaucoup plus forte qui est celle du démantèlement, donc on est au regard des GAFAM, peut-être que vu des GAFAM, les Européens paraissent plutôt cool par rapport aux Américains. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, encore une fois, un pas de côté par rapport à la question du gatekeeper qui est un accès au search, parce que le search, en gros, c'est là où il y a la manne.
Ça, c'est la vache à lait.
C'est là la vache à lait. C'est que, est-ce que le search a vraiment un avenir à l'heure
de Perplexity,
à l'heure de Perplexity, à l'heure de ChatGPT, à l'heure de l'intelligence artificielle générative.
C'est intéressant ça comme question.
Et est-ce que finalement on n'est pas sur un combat d'arrière-garde là où aujourd'hui les interfaces vont être beaucoup plus transactionnelles, conversationnelles avec des intelligences artificielles qui vont être capables d'aller chercher sur Internet, répondre à votre requête de manière extrêmement précise, là où on le voit tous, nos usages au quotidien. Faites un test par rapport à l'époque de Google avant ChatGPT et aujourd'hui avec ChatGPT. Je pense qu'on utilise beaucoup plus ChatGPT qui est capable d'aller chercher sur Internet des résultats pour chercher de l'information plutôt que d'aller chercher Google parce qu'on est beaucoup plus contextualisé, on est dans un dialogue et on n'a pas juste une liste de liens.
Alors, l'expérience pour le moment sur les chiffres montre que les usages ont du mal à... Nous, on est une génération qui va chercher sur Google. Changer les habitudes, ça prend beaucoup plus de temps que changer une technologie.
C'est clair, c'est clair.
Donc aujourd'hui, Google ne voit pas ses revenus liés au search baisser. Ça reste le principal gatekeeper de l'Internet. L'apport de Chrome, il faut peut-être revenir sur ça. Chrome a servi... c'est des sujets que j'ai adressés côté Google.
Oui, puisque tu travaillais chez Google, rappelons-le, dans les années 2010.
De l'Europe pour eux. Chrome a énormément aidé avec WebKit et donc avec ce qui est dans Safari, à standardiser le web, qui était devenu, sous l'égide de Microsoft, un mélange entre un western, entre le monde de l'open source et le monde de Microsoft. Et ils ont agi dans l'intérêt de la communauté du web, dans leurs intérêts aussi, parce que ça facilitait le crawling et la standardisation des pages web. Donc Chrome est le monopole quasi sur la recherche et sur... le navigateur qui a réussi à obtenir Chrome a été dû à une qualité du produit, à une qualité du code et au fait qu'il a été un modèle open source. Il ne faut pas oublier que Chrome a été construit sur un modèle open source qui s'appelait
Chrome. J'ai raison de signaler que c'est un excellent produit. C'est pour ça aussi qu'il a explosé ses parts de marché très très vite.
Il a accéléré l'Internet et il a... Sur la partie de la... Aujourd'hui, on n'observe pas une baisse à cause de ChatGPT, en tout cas, pas de substitution de la recherche sur Google. Par ChatGPT. Deuxième chose qui est assez importante, heureusement, parce qu'on ferait péter, je pense, l'ensemble des centrales nucléaires du monde, parce que la consommation d'utiliser ChatGPT comme moteur de recherche amènerait aujourd'hui l'ensemble de l'écosystème commencer à dire que finalement Google sauve la planète en faisant de la recherche pas chère.
Alors juste Google, conteste cette décision, hein, bien évidemment, ils ne veulent pas se séparer de Chrome, ça va prendre encore des mois, voire des années.
Avec un paradoxe qui est que je crois que dans les arguments qu'ils invoquent, il y a l'argument de la sécurité, alors que Chrome est la porte d'entrée via les extensions à un certain nombre de trous de sécurité qui ne sont pas localisés dans Chrome, mais qui transitent par le navigateur. Donc ça, je trouve ça un peu assez amusant, assez paradoxal. Je voudrais juste rebondir sur ce que tu disais, Thomas. Tu as raison sur le fait que les habitudes changent avec le temps, c'est-à-dire la raison pour laquelle BlackBerry ne s'est effondré que 4 ans après le lancement de l'iPhone. Ça n'a pas été immédiat. Mm-hmm. À l'inverse, là où je suis en désaccord avec toi, c'est que, puisqu'on tu parlais de notre génération, j'ai eu l'occasion d'intervenir sur le sujet une ou deux fois, je reste totalement ahuri par la vitesse à laquelle, sans m'en apercevoir... Je suis passé de Google à Perplexity, sur mobile comme sur, ordinateur, pour n'importe quel type de question. Je m'en suis aperçu au bout de 3 semaines en me disant tiens c'est bizarre, il y a beaucoup plus d'onglets Perplexity qui sont ouverts et où ils sont mes onglets Google, il n'y en a plus.
Je suis complètement d'accord avec Philippe et d'ailleurs il commence à y avoir des études, je revérifiais parce que j'étais pas sûr, mais il commence à y avoir des études qui montrent qu'il y a à peu près 20% des internautes américains qui déclarent utiliser ChatGPT comme alternative au moteur de recherche. Donc avec toutes les limites que ça a, faut pas oublier qu'il y a quand même des hallucinations avec ChatGPT, il faut bien l'utiliser, il faut aller utiliser les bons modules, etc. Mais on est dans une dynamique, on est au tout début de cette dynamique. Les chiffres montrent, les chiffres sont affichés, qu'il y a vraiment une légère baisse, mais c'est de l'ordre du 1% ou de 2% chez Google en search. Mais comme tu le disais, je suis complètement d'accord, la bascule ne va pas se faire du jour au lendemain. Potentiellement en train de changer de paradigme.
On essaie de comparer deux choses qui ne sont pas tout à fait comparables. Ce que propose un moteur de recherche Perplexity ou des modèles basés sur l'IA générative, c'est une recherche basée sur un dictionnaire connu et fixé.
Non. justement, Perplexity descend.
Pas du tout.
Perplexity te remonte les références.
Oui, oui, il va chercher sources. Il va pas chercher dans le moteur, il va chercher sur Internet. Il fait une recherche sur Internet et il transforme le résultat de cette recherche sous la forme d'une conversation. Non,
je veux dire, par là, c'est qu'aujourd'hui, ce qui ne peut pas être remplacé, en tout cas ce que je trouve être le golden nugget de Google, c'est la capacité en quelques secondes de scroller tout le web et voir tout ce qui change du web.
Tu cherches sur Grok, c'est encore plus instantané parce que Grok va avoir accès en plus à toute la base de
Is
en quasiment temps réel. Donc là, on est dans un changement de paradigme, vraiment.
Mais je voulais revenir juste sur l'action de la régulation, parce que tu as raison de rappeler les modalités différentes entre les anglo-saxons et les européens. Les européens régulent ce qu'ils ne maîtrisent pas. Les anglo-saxons, ils attendent que ça ait réussi. Mmh. Pourquoi est-ce qu'ils tapent plus fort? Pourquoi est-ce qu'ils démantèlent? C'est aussi parce qu'ils s'attaquent à des bestiaux qui sont infiniment plus gros. Enfin, Chrome, aujourd'hui, c'est plus d'utilisateurs que la population combinée de l'Europe et des États-Unis. Mmh. Donc, c'est des gros objets. Et pour moi, la question vers laquelle j'aimerais ouvrir, et c'est sur laquelle j'aimerais avoir votre avis à tous, c'est qui va récupérer Chrome?
Oui.
Il y a que ça dedans combien de temps, mais qui pourrait mettre la main sur Chrome en tant qu'activité distincte, surtout si ce n'est pas d'une rentabilité phénoménale?
Un modèle économique.
Alors, il y a quelques candidats, apparemment.
Ça permettra à Microsoft d'avoir enfin un navigateur qui fonctionne.
Voilà, exactement. Bah, Microsoft
plaisante.
C'est à peine une plaisanterie, François, parce que Microsoft fait partie des boîtes citées parmi les potentiels repreneurs.
C'est
Amazon,
très antitrust, ça. Hein.
Et puis Mozilla, la fondation Mozilla. Ouais,
mais bon, si tu mets Chrome avec le moteur de recherche Bing à l'intérieur, ça ne va pas être terrible, hein.
Donc en fait, en tout cas, un navigateur.
Non, enfin je sais pas.
Un navigateur en tant que tel n'a pas de modèle économique. Et il faut pas l'oublier parce que quelque part c'est peut-être bien pour le consommateur, mais on voit ce qui est arrivé malheureusement parce qu'en fait Chrome n'a pas gagné. Il a gagné contre Internet Explorer, mais il a aussi tué
contre Firefox.
J'allais venir sur ça. Mais il a aussi tué ou en tout cas asphyxié peu à peu. Tout en prétendant travailler avec eux, Mozilla, la fondation Mozilla, qui a donné Firefox. Ouais. Et donc, quelque part, il faut voir que la qualité de Chrome, sponsorisée massivement par Google pour un intérêt économique, parce que finalement, il a été rémunéré ailleurs, va faire qu'on n'aura pas de modèle économique aujourd'hui facile à trouver sur un navigateur. Mmh. Donc, d'un côté, c'est pour le bien commun qu'il voudrait l'open sourcé, mais le jour où il est open sourcé, qui va maintenir? Qui va payer?
Ça sera peut-être le mot de la fin. Très intéressant ce sujet. Merci beaucoup à tous les trois. Merci Thomas. Thomas Serval, PDG de Barracuda, fan de Tesla, enfin un peu moins, d'après ce que j'ai compris. Mais tu reviendras, on évoquera.
On verra si on passe le FSB. Tesla,
notamment de Starlink, que tu suis avec beaucoup d'intérêt. Merci Philippe.
Merci François.
Philippe Devost, fondateur de Phileos et ancien directeur général de l'EPITA. Et merci à Michel Lévy-Provençal. À bientôt, mon Michel, prospectiviste, fondateur de TEDx Paris et de l'agence Brightness. Et vous restez avec nous. Encore une demi-heure à passer ensemble avec plein de bonnes choses. On va aller au SXSW. Direction Austin, Texas, pour parler de cette fête de la tech. Et Arnaud Auger est sur place, il va tout nous raconter. Et puis, on découvrira cette start-up qui, grâce à l'IA, corrige les copies des étudiants. Le service s'appelle Lumo, c'est assez bluffant. Et on en parlera avec le porte-parole de Lumo qui sera avec nous sur le plateau. Et puis, dans un instant, c'est Léa Benahimi qui nous rejoint pour le Tech Flash. Merci d'avoir choisi BFM Business. Merci d'être dans Tech & Co. À tout de suite.
Tech & Co, la quotidienne Tech Flash.
Et tout de suite, il est temps de retrouver, comme chaque soir, Léa Benahim. Ce qu'il faut retenir de l'actu tech de ce mardi soir, c'est le Tech Flash. Bonsoir Léa.
Bonsoir François et bonsoir à tous. Et à la une, rien ne va plus pour Tesla. Sa valeur a été divisée par deux en seulement trois mois. 29 milliards de dollars de perdus rien que sur la journée d'hier. Elon Musk paye le prix de la conjoncture actuelle des ventes en berne, mais aussi et surtout de son engagement auprès de Donald Trump. Même si à l'heure où je vous parle, le cours de bourse reprend des couleurs, plus 4% à la bourse de New York. Également, dans l'actualité, la vente de Chrome, les autorités américaines intensifient la pression judiciaire. Le régulateur a réitéré sa demande à Google de se séparer au plus vite de son navigateur. Quant à Android, il peut rester au sein de l'entreprise, mais à condition d'être plus clairement séparé des autres produits. en Europe. Le couperet devrait bientôt tomber sur Meta et Apple. Pour non-respect du DMA, les deux géants américains risquent une amende allant jusqu'à 10% de leur chiffre d'affaires. Mais selon Reuters, le montant pourrait finalement être dérisoire. Bruxelles veut s'assurer avant tout que ces mastodontes respectent la loi plutôt que les sanctions en elles-mêmes. Et puis c'est une cyberattaque passée sous les radars, mais dont on découvre peu à peu l'ampleur. La fintech française Harvest a été attaquée fin février et deux semaines plus tard, les services sont toujours hors d'usage. Et si la start-up assure que les données des clients ne sont pas affectées, les professionnels, eux, sont inquiets. Les explications de Nathan Cocampo.
Groupama, Crédit du Nord, AXA, BNP Paribas. Harvest, c'est plus de 4600 sociétés clientes. O2S, son logiciel pour la gestion de patrimoine, ne fonctionne toujours pas. Il est utilisé par les professionnels pour piloter les portefeuilles d'investissement de leurs clients. Depuis deux semaines, c'est donc retour au papier pour les conseillers. Bon nombre de données sensibles sont toujours indisponibles, comme le souligne Philippe Loiselet, qui représente une centaine de sociétés de gestion.
Donc c'est quand même beaucoup d'informations. Si vous êtes un tout petit épargnant, bah ça concerne 2-3 contrats, mais si vous avez un peu plus, bah on peut avoir une vision sur vos assurances emprunteurs, qui veut dire vos crédits, qui veut dire vos biens, qu'est-ce qu'on a financé, vos déclarations fiscales, votre état de santé.
Harvest l'assure par écrit le 6 mars, il n'y a pas de perte de données, mais avec l'indisponibilité des services et le manque de communication de l'entreprise, les professionnels restent inquiets.
Nous aujourd'hui, ce qu'on a préconisé, c'est que nos confrères fassent une déclaration à la CNIL pour indisponibilité des données confiées à un fournisseur. Harvest nous a indiqué qu'ils ont fait les process. Ils nous indiquent qu'il n'y a pas de perte d'informations, donc c'est l'ensemble. Moi, les entretiens que j'ai pu avoir avec eux, ben, c'est une réinitialisation de tous les mots de passe dès lors que les systèmes seront réouverts.
Pas encore de date annoncée pour un retour à la normale des services, pas non plus de communiqué récent d'Harvest sur l'étendue des dégâts. Sollicité par BFM Business, la fintech n'a pas répondu à nos questions.
Et un point d'ailleurs sur la menace cyber en France. L'ANSSI a publié son rapport aujourd'hui et les cyberattaques sont en hausse de 15% en 2024, avec en première cible les usines d'énergie renouvelable, le réseau interministériel de l'État ou encore les infrastructures télécoms. Et puis Starlink va bientôt faire son entrée en Inde. Le réseau d'Internet par satellite d'Elon Musk a signé avec l'un des principaux opérateurs indiens pour déployer sa technologie dans le pays le plus peuplé de la planète. Une décision qui a entraîné un vif débat en interne car Starlink était en concurrence directe avec une entreprise locale. Et pour finir, direction Global Industries, le salon a ouvert ses portes ce matin à Lyon et Frédéric Simotel était sur place pour l'émission Tech & Co Business qui sera diffusée ce soir à 22h30 sur BFM Business, puis ensuite en replay et en podcast sur toutes les plateformes. Et on s'intéresse ce soir plus particulièrement au rôle clé de la maintenance industrielle. On écoute un extrait.
Moi, je pensais que depuis qu'on parlait d'IA, de maintenance prédictive, ça y est, la maintenance était vue comme un domaine plein d'élan, plein de dynamisme.
Alors, on n'y est pas encore.
Non. La maintenance industrielle.
La maintenance industrielle. Alors, la maintenance industrielle, c'est un secteur d'activité qui est sous-exploité, sous-estimé. Alors, on pense souvent au SAV, au service entretien au fond de l'atelier, peut-être un peu sombre. Et en fait, la maintenance, elle est centrale parce qu'elle peut aller chercher des points de compétitivité, de la performance économique, de la performance aussi... écologique sur, dans les usines. Et alors le mot qui est à la mode en ce moment, c'est de la souveraineté aussi.
Oui.
C'est probablement grâce à la maintenance qu'on va pouvoir garder nos usines en France, hein, parce que sans maintenance, pas d'usine. Donc, et globalement, la maintenance aujourd'hui, elle est centrale, elle est devenue stratégique. Je vais vous citer quelques exemples. Par exemple, la maintenance, il y a 20 ans, on était dans un contexte où on avait 20 machines pour faire une pièce. Aujourd'hui, c'est plutôt une machine pour faire 20 pièces différentes. Oui. Et les cadences sont vraiment très intenses et c'est très automatisé.
Voilà. Et si vous voulez retrouver l'intégralité de Tech & Co Business, c'est ce soir sur BFM Business à partir de 22h30. Et tout de suite, direction Austin, Texas, avec Arnaud Auger.
Tech & Co, la quotidienne, décryptage.
Hello Arnaud!
Salut François.
Arnaud Auger, directeur adjoint du C-Lab de KT Innovation à San Francisco. Tu es à San Francisco là ou est-ce que tu es à Austin?
Je suis encore à Austin, au Texas.
Ah, voilà, parce que je crois que ça dure encore quelques jours. Peut-être commencer par la définition de ce SXSW, qui est voilà, un rendez-vous qui prend d'année en année de plus en plus d'ampleur. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là ?
En effet, SXSW pour South by Southwest, c'est peut-être le plus grand festival au monde dédié à l'innovation qui se tient en effet chaque année en mars à Austin, au Texas. Et c'est un peu pour moi l'anti-CES. C'est que le CES de Las Vegas, c'est surtout un salon professionnel avec de nombreux stands pour des vendeurs d'électronique et que finalement, il y a assez peu de contenu. Et South by Southwest, c'est tout l'inverse. Et il y a beaucoup de contenu et plutôt décidé en effet aux penseurs, aux décideurs d'innovation et très peu de stands de gadgets. Et donc, c'est vrai que plus que des conférences, ça rassemble aussi un ensemble d'expériences au sein de Austin, la capitale du Texas. Et il y a trois festivals, donc il y a celui du cinéma, de la musique et de l'interactif. C'est près de 350 000 participants sur les différents festivals, dont 30 000 sur l'interactif, celui qui nous intéresse le plus, axé sur la technologie. 450 sessions de talk, de keynote, de panel. Donc on trouve des grands noms, mais on trouve aussi des conférenciers, des intervenants qu'on entend nulle part ailleurs, parce qu'ils ont proposé des sujets qui ont été choisis par le grand public.
Tiens, est-ce qu'on parle de la France dans ce coin du Texas à Austin, dans le SXSW ? La France est présente, Arnaud ?
Exactement, la France est présente, et notamment BPI France, qui pour la troisième année a accompagné du coup une cinquantaine d'acteurs des industries culturelles et créatives et aussi de la tech. Et ils ont même organisé la French Touch Rendez-vous, donc une journée pour faire rayonner justement la création, le savoir-faire français. Et c'est vrai que les industries culturelles et créatives en France représentent 1,5 million d'emplois, 5% du PIB de la France. Et donc les leaders de cette industrie sont venus voir comment l'IA et les technologies numériques vont les impacter et peut-être aussi faire partie de la conversation. Il y a aussi Valeo, qui est un équipementier automobile français, qui est revenu à Austin pour présenter son panneau vision. C'est un tableau de bord panoramique avec un affichage virtuel flottant sur toute la largeur du pare-brise en haute définition. Tout ça pour avoir les informations dans le champ visuel du conducteur, donc toujours plus de sécurité et de confort. Et encore une fois, c'est qu'on sait que South by Southwest attire aussi des professionnels du cinéma, du gaming. Et donc voilà, Valeo veut rester proche de ses partenaires potentiels. Et il y a aussi LVMH, L'Oréal par exemple, qui faisait partie des grands groupes français présents à South by Southwest.
Et alors la bonne nouvelle, Arnaud, c'est qu'on a deux startups françaises qui ont été primées au SXSW.
Exactement. Et voilà. Et la première, sur pas n'importe quel des prix, le prix de la meilleure innovation en intelligence artificielle. Wow. Et c'est Wondercraft qui l'a gagné. Donc c'est le fameux exosquelette français, ouais, hein, qui est une incarnation de la tendance de l'IA physique, de la robotique, et qui permet notamment aux personnes qui sont handicapées moteurs de remarcher avec ces exosquelettes, et qui a convaincu du coup le jury de South by Southwest. Et c'est que la start-up a quand même levé près de 100 millions d'euros et il se développe aux États-Unis, donc c'est parfait pour eux. Et c'est vrai qu'après Ingenuity Tools, qui avait gagné l'année dernière, les start-up françaises de la robotique ont le vent en poupe à South by Southwest. Et comme tu disais, voilà, il y a une deuxième start-up française qui a à nouveau raflé un prix à South by Southwest. Et là, c'est une start-up française qui est entre Clermont-Ferrand et Miami, qui a gagné le prix de la meilleure expérience audio. Donc c'est Cinegram. Pour les amateurs de musique et technologie, ils ont une expérience qui s'appelle IC Music, qui transforme les ondes sonores en images uniques grâce à l'IA. Et donc concrètement, là, chaque morceau de musique génère une œuvre visuelle, dynamique, un peu comme un spectrogramme artistique personnalisé. Donc, c'est un projet qui mélange art, science, émotion. Donc voilà, nous faire vivre la musique d'une nouvelle façon, une innovation qui tente de redéfinir un peu notre rapport au son et à l'image avec de la synesthésie.
De la synesthésie, mon Dieu, on n'entend pas souvent ce nom prononcé. Tu parlais de Wondercraft tout à l'heure, une belle boîte qui est pilotée entre autres par Jean-Louis Constanza qui vient de temps en temps dans Tech & Co pour nous expliquer les avancées de cet exosquelette qui est mis à jour évidemment régulièrement. Pour finir, Arnaud, quel est le thème de fond qui t'a le plus marqué cette année pour ce cru 2025 du SXSW ?
Ouais, ben, la keynote d'ouverture de South by Southwest était intitulée « Quelle est la clé manquante pour vivre plus longtemps, en meilleure santé et plus heureux ?» Et donc, déjà, ça confirmait que la quête de la longévité, c'était un thème fort à South by Southwest. Il y a eu de très nombreuses sessions. Et c'est vrai que, justement, grâce à l'intelligence artificielle, il y a de nombreuses avancées qui nous permettent d'envisager de pouvoir vivre beaucoup plus longtemps en meilleure santé. Par exemple, Dario Amodei, donc le patron d'Anthropic, avait annoncé qu'avec l'IA, il pensait qu'on pouvait doubler l'espérance de vie humaine d'ici 5 à 10 ans. Ah ouais. On sait que Sam Altman aussi a investi 180 millions de dollars dans une start-up pour augmenter notre espérance de vie. Et c'est donc qu'il y avait plein de conférences sur la longévité. Mais donc, l'oratrice de cette keynote d'ouverture-là, elle rappelait qu'en effet, que si les IA et les progrès de la science et de la médecine permettent en effet d'améliorer la santé physique et voire même mentale, il y avait un troisième pilier qu'il ne fallait pas oublier, c'est la santé sociale. Et c'est vrai que ça fait écho aussi avec d'autres talks qu'on a pu entendre à South by Southwest, notamment celui de Scott Galloway, un professeur à NYU, qui a rappelé que l'épidémie pour lui la plus importante de nos sociétés depuis le Covid, c'est l'épidémie de solitude. 52% des Américains se disent seuls, un chiffre qui monte à 61% chez les jeunes. Un homme sur sept qui n'a absolument aucun ami. Des recherches Google qui, sur comment se faire des amis ou la solitude qui ont explosé depuis 5 ans. Et donc c'est vrai que on a eu le télétravail, on se met à bosser chez nous. C'est vrai que parfois, même les technologies numériques, ça nous enferme un peu dans notre bulle, dans un techno-cocon, comme l'appelle Alain Damasio. Et donc, c'est parfois même nos échanges interhumains, ils sont intermédiés par des IA. Donc, tous mes emails, en effet, moi, c'est ChatGPT et Grok qui les corrige. Et donc, Kelsey Killiam, qui est cette oratrice, cette keynote d'ouverture, a rappelé... en fait, toutes ces interactions sociales sur les réseaux sociaux, c'est un peu comme des calories vides. Ça ne nourrit pas, en fait, notre besoin d'échange social et qui ne sont pas au service de notre santé sociale. Et donc, voilà, c'est vrai qu'elle disait même qu'être constamment seul, c'est comme fumer 15 paquets de cigarettes par jour. Et donc, il fallait en prendre soin. Et donc, voilà, c'est vrai que moi, au moins, en venant à South by Southwest, je peux faire plein d'interactions. Donc, c'était une certaine forme de spa de santé sociale, une cure de socialisation.
Ouais, et puis tu as plein d'amis en plus. Tu t'es fait sans doute plein d'amis à SXSW, Arnaud. Pas trop quand même, attention, hein, on te surveille hein, par visio interposée. Merci beaucoup, Arnaud. À bientôt.
Merci.
Arnaud, donc, qui est directeur adjoint du CILAB de KT Innovation à San Francisco. Et tout de suite, direction la rédaction de Tech & Co.
Tech & Co, la quotidienne. La chronique techandco.com.
Avec Salomé Ferrari qui nous a rejoint. Salut Salomé.
Bonsoir.
Et on va parler ce soir d'une nouvelle IA qui arrive sur le marché, c'est Maya. Retenez bien ce nom, c'est un chatbot vocal développé par Sesame AI. Et apparemment, Salomé, elle serait capable de discuter comme le ferait en fait un humain.
Exactement, c'est un énième concurrent pour ChatGPT ou Le Chat. Et ça promet déjà d'être un acteur de taille puisqu'ils ont quand même pour objectif de donner vie à l'ordinateur. Belle promesse quand même, assez ambitieuse. Donc en fait, tu l'as dit il y a quelques jours, Sesame AI a dévoilé Maya, donc qui est un assistant vocal alimenté par l'intelligence artificielle. Sauf que là, le but du programme, c'est pas de répondre à des questions ou de résoudre des problèmes, mais simplement de discuter avec l'utilisateur. Alors pour le moment, c'est juste disponible sous forme de démonstration et en anglais, mais les résultats sont déjà bluffants. Les premiers testeurs parlent quand même d'une IA révolutionnaire qui repousse les limites, ou d'une IA émotionnelle, parce qu'elle serait capable de parler comme un humain, de manière très fluide, de manière très naturelle. Donc, par exemple, l'IA peut te demander quel est ton secret le plus inavouable. Pareil, très, très ambitieux. Qu'est-ce qui te fait vibrer? Qu'est-ce qui te fait peur? Qu'est-ce qui te fait pleurer? Bref, une vraie conversation.
Oui, parce que c'est vrai que ChatGPT, souvent, enfin, quand vous êtes en vocal avec lui, il vous pose une question à la fin, mais c'est vraiment une question du style « Et toi, quelle pizza vas-tu manger ?» Tu vois,
oui,
parce
voilà,
qu'on lui a demandé l'adresse
du pizzeria.
Donc c'est un peu limite, et là, visiblement, il y a un peu plus de profondeur. Et quels sont les projets sur le long terme avec cette Maya?
L'objectif, c'est vraiment d'atteindre ce qu'ils appellent la présence vocale. Donc en fait, c'est ce petit truc en plus qui fait qu'on a vraiment l'impression de parler à un humain et pas simplement à un robot. Donc c'est d'oublier vraiment qu'on est juste devant son ordinateur. Donc ce serait par exemple que l'IA soit capable d'engager une vraie conversation, d'adopter un ton en fonction du thème de la conversation, donc qu'elle soit triste, soyeuse, etc. Ou même de faire des pauses dans un récit pour mettre plus d'émotions, de drames, etc. Et Sesame ne compte pas s'arrêter en si bon chemin parce qu'après avoir développé un chatbot, ils aimeraient développer des lunettes connectées. Comme ça, on aurait un petit peu l'IA dans nos lunettes qui pourrait voir ce qu'on voit et on pourrait discuter avec elle dans la rue et elle verrait ce qu'on verrait.
Voilà, bah, tout à l'heure, Arnaud disait que la plupart des Américains n'avaient pas d'amis. Bah, voilà, ils en ont maintenant avec Maya.
Exactement.
Merci beaucoup, Salomé. Si vous voulez en savoir plus sur ce sujet, je vous invite à visiter et à lire le site de Tech & Co. Merci. Et tout de suite, on va s'intéresser à ce partenariat Tech for Future 2025 avec mon invité.
Tech & Co, la quotidienne, la start-up.
Oui, Tech for Future 2025, qui est l'un des grands événements tech de France hein, chaque année, organisé par la Tribune. Ça y est, on connaît les 6 innovations de l'année dans les Hauts-de-France notamment. Et on va en découvrir l'une d'entre elles avec Louis Derry qui est avec nous sur le plateau. Bonsoir Louis.
Bonsoir.
Vous êtes CEO et cofondateur donc de Lumo. Déjà bravo hein, de faire partie de cette, innovation de l'année des Tech for Future 2025. Organisé par la Tribune. Vous êtes dans la catégorie Start, je crois. Hein.
C'est ça, exactement.
Voilà, créé en 2024, c'est tout frais.
Tout frais.
En fait, Lumo. Et en fait, vous révolutionnez la correction d'examens avec une approche innovante. Les examens des étudiants, en fait.
C'est ça. En fait, nous, on s'adresse aux écoles du supérieur en France. Mm-hmm. Donc, Lumo, comment ça marche ? Une école a besoin de corriger des examens. Donc ils font appel à nous, donc ils vont nous envoyer comme un correcteur normal, mais nous on peut dire qu'on a un super correcteur. Donc les copies avec les critères de correction.
Donc, il faut scanner les copies, les envoyer.
Alors il y a du tapuscrit ou manuscrit, on les scanne. Ou tapuscrit, bah, c'est du PDF, donc on peut nous les envoyer.
Bien sûr.
Et donc nous on va prendre contact avec un référent de l'examen, ça peut être un professeur, ça peut être un responsable pédagogique, un intervenant. Et en fait nous on n'est pas un logiciel, on est une agence de correction, donc on a un côté très humain, et donc on va comprendre les critères avec eux. On va, en interne, grâce à un logiciel qu'on a développé, qui utilise l'intelligence artificielle et nos responsables de correction, donc des experts de correction, corriger en moins de 15 jours et renvoyer l'examen à l'école.
Donc, qu'est-ce que vous apportez concrètement ? C'est-à-dire plus de rapidité ? Vous faites quoi ? Une première lecture, en fait, du devoir, c'est ça ?
Donc déjà,
de l'examen ?
On est beaucoup plus rapide, vous l'avez dit, parce que les délais, on le sait, dans les écoles, ça peut atteindre plusieurs mois. C'est problématique quand on commence un deuxième semestre, on ne sait toujours pas si on va avoir ses notes. Mais aussi, il y a un autre point, c'est que la correction, c'est très chronophage. Ça prend énormément de temps et c'est un gros problème pour les écoles. De un, pour recruter des intervenants. Parce que quand on est intervenant, vous pourriez être intervenant dans une école, vous venez pour transmettre votre savoir et pas pour corriger des copies. Et de deux, déjà que ça prend du temps, si on veut mettre des feedbacks complets pour chaque étudiant, ça devient très compliqué. Très utile quand on a des rattrapages. Si on n'a pas de retour sur notre correction, on ne peut pas s'améliorer. Donc nous, on va donner des feedbacks ultra complets tout en réduisant le billet de correction. Parce que si vous corrigez le mercredi à 14h ou le dimanche à 21h, vous n'avez pas corrigé de la même manière, notre IA elle est impartiale.
Comment vous mâchez le travail en fait pour le référent dont que vous expliquiez tout à l'heure qu'est-ce que vous allez donner ? Vous allez annoter le document ? Comment ça marche en fait ?
Ah non, en fait, on fait tout de A à Z. C'est le principe de l'agence parce que le vrai problème des écoles, c'est la correction en elle-même. Donc si on mâchait le travail, il y aurait toujours peut-être ces délais qui sont importants. Donc nous, on va vraiment comprendre les attendus pédagogiques, parce qu'on ne fait pas les cours, hein, c'est pas notre travail. Et donc, on va faire une pré-correction avec les critères. Donc, on va présenter quelques copies, une dizaine de copies, par exemple, au référent de correction, qui va valider avec nous. Ensuite, on va tout corriger, on va lui présenter ce qu'on a fait. Comme ça, on lui dit où sont les faiblesses, où sont les forces. On va faire des KPI, en fait. Et lui, il peut vérifier en dernier ressort, mais ce n'est vraiment pas le but. Donc nous, c'est vraiment de prendre la place de correcteur pour permettre aux intervenants, parce qu'il faut savoir aussi, dans les écoles, il y a les directeurs qui corrigent, les responsables pédagogiques, les rapports de stage, par exemple. Vous doutez bien qu'ils ont d'autres choses à faire, de se concentrer sur l'essentiel qui est leurs étudiants.
Est-ce que ce n'est pas dangereux malgré tout de confier à une IA le destin en fait, d'un élève ? Parce que finalement, même si après il y a, comme vous disiez, le saut final qui est fait par un humain, malgré tout la grosse partie de la correction est faite par l'IA, si j'ai bien compris.
On sait qu'on a une responsabilité qui est énorme, parce que si on met en quelqu'un en dessous de 10, il va en rattrapage. Et si on remet en dessous de 10, oui, il a pas son année. Et donc, il y a des vies qui sont en jeu quasiment à ce niveau-là. Donc, on a conscience.
Des destins, des vocations.
On a conscience de ce principe. Et c'est pour ça qu'il y a une énorme part d'humains dans le processus. Il y a encore des critères, bon, vous avez vu, on est très jeune, qu'on corrige à la main, et on automatise à 100% quand on est sûr qu'il n'y a pas d'erreur. Je vais vous donner un examen qu'on automatise très bien, c'est la comptabilité. Ah oui. Sur un bilan.
Voilà. C'est du cartésien, c'est facile.
Exactement. Il y a des examens qu'on va revérifier, par exemple les rapports de stage qu'on fait aussi très bien. Et en fait, en automatisant, on va entraîner notre modèle. Et une note, en fait, c'est... l'IA, c'est quoi? C'est une probabilité par rapport à un résultat précédent. Donc, c'est la meilleure technologie pour donner une note. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Donc, à l'heure actuelle, on a levé 300 000 euros qui nous permet de faire notre VP. Et donc, on compte pas s'arrêter là pour avoir les modèles le plus performants possible.
Vous faites appel à quel large language model, justement?
Alors, principalement Gemini pour l'instant. Mais okay. En fait, on a créé un système qui nous permet de switcher. En fait, moi, je suis responsable de correction chez Lumo SEO aussi. Je switch et je teste quel modèle marche mieux pour une application. Parce qu'il y a énormément de typologies d'examens différents. Ouais. Il y a des modèles qui marchent mieux que d'autres. On aime bien Gemini parce qu'il permet d'avoir un contexte qui peut aller jusqu'à 2 millions de tokens, donc plus de 8 millions de caractères, ce qui nous permet de corriger des gros rapports et de prendre des contextes qui sont importants. Voilà.
Tout ce qui est littéraire, c'est peut-être le plus compliqué, non, à corriger?
On me le dit souvent, on prend souvent l'exemple de philosophie.
Ou de la philosophie?
Enfin, on ne fait pas de philosophie parce qu'il y a un trop gros aspect subjectif. On teste, on met les limites, on peut les mettre. Des fois, on dit on sait pas faire. Et des fois, on met des humains qui corrigent eux-mêmes, en fait. Hein, parce que, comme je vous l'ai dit, on est une agence, on s'occupe de tout de A à Z, c'est notre promesse. Donc, on va mettre des humains qui vont corriger et non des IA. On fait des tests sur des modèles. Notre limite, c'est quoi? On teste, on donne à l'école. Et s'ils valident, on va plus loin. Sinon, on en reste là.
Alors, vous êtes, je disais, tout jeune, hein, créé l'année dernière. Est-ce que vous avez déjà des établissements qui font appel à vos services?
Oui, on a 8 clients à l'heure actuelle, dont un de nos beaux clients qui est Pigier, qui est une école qui existe depuis plus de 180 ans. Ils sont vraiment à la pointe de l'innovation. Et ils font appel à nous pour les feedbacks, justement, pour donner des feedbacks complets à leurs étudiants et pour réduire drastiquement le temps de correction.
Très bien. Et la prochaine étape, c'est évidemment de d'essaimer votre solution auprès de beaucoup, toujours plus d'établissements.
C'est ça, voilà. Maintenant, il faut qu'on arrive à scaler notre business pour le déployer sur des volumes. Par exemple, si on nous demande 10 000 corrections demain, parce que nous, on est une agence, mais on fait du volume. Mmh. Si on voulait faire des examens de 10 copies, bah, ça ne marcherait pas, il faudrait un logiciel. Donc, c'est de pouvoir toujours aller plus loin, améliorer la logistique, la communication, comme je vous l'ai dit, c'est une part très importante avec les écoles. D'accord. Qui ont tous des besoins différents.
Et bien voilà, ça s'appelle Lumo. Merci beaucoup. Merci Louis. Beaucoup. Louis Derry, CEO et cofondateur de Lumo, l'un des lauréats de ce Tech for Future 2025. Merci dans la beaucoup. Catégorie Start organisée par nos confrères et néanmoins cousins maintenant, et bien la Tribune. Merci.
Merci.
C'est avec ce rendez-vous que se termine ce Tech & Co, la quotidienne. Toujours un vrai plaisir que de passer cette soirée en votre compagnie, à la radio, à la télé, en direct, comme chaque soir. Et puis après, bien sûr, les replays, les podcasts qui vous attendent. On sera là demain, mercredi, dès 20h, comme d'habitude. À demain, avec plaisir.
Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business.